Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Pierre. Nous avons entamé depuis quelques semaines une étude suivie de cette lettre. Et comme toutes les lettres, quand vous recevez une lettre, vous ne lisez pas des morceaux, vous ne commencez pas par le milieu, et puis après vous allez à la fin, et puis après vous dites, bon, dans 3 mois je vais lire la suite. Hein. On lit tout, normalement, du début jusqu'à la fin. Donc c'est ce que nous voulons faire avec cette lettre et je vous invite à la lire entièrement si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez jamais fait, de la lire et de la relire entièrement. C'est pas une longue épître, il y a 5 chapitres et ça se lit très rapidement et une lecture plusieurs fois permet de bien saisir ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Alors cette épître, je vous rappelle, nous avons dit qu'elle est écrite à des personnes, l'apôtre Pierre le dit, qui sont dispersées et aussi persécutées, étrangers, considérés comme des étrangers. Il écrit la lettre pour les encourager et pour les aider à tenir ferme dans la grâce de Dieu à laquelle ils se sont attachés. C'est ce qu'on trouve en 1 Pierre chapitre 5 verset 12 quand il dit « C'est par Sylvain, donc on est à la fin de la lettre, il dit « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Vous voyez ce qui risque d'arriver quand on est dans les difficultés, dans les soucis, dans les épreuves, comme c'était le cas pour ces personnes à qui Pierre s'adressait, et peut-être des personnes qu'il n'avait pas vues, qu'il ne connaissait pas du visage, c'est que l'on soit découragé et que l'on commence à mettre en doute la grâce de Dieu à laquelle on a été appelé, qu'on commence à mettre en doute son salut, qu'on commence à mettre en doute la véracité de l'Évangile, sa puissance, est-ce que sa pertinence pour notre vie. Et donc Pierre leur dit ici, j'ai écrit ces choses pour vous exhorter et pour vous attester, pour vous dire, pour vous affirmer que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Alors tenez bon, tenez ferme, même au milieu des épreuves. Et on avait souligné le fait qu'il ne commence pas par donner des impératifs à ses lecteurs. Il ne dit pas « faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela », ce qui est un peu ce que nous attendons quand nous sommes dans des difficultés. Nous, on veut savoir, on veut une solution clé en main. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà ma situation. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire ça? Oui ou ça? Non. Et c'est ce qui nous intéresse. Mais ce n'est pas comme cela que l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire de Pierre, agit pour ses croyants qui sont dans les souffrances et dans les difficultés. Il commence d'abord par le haut. Il commence à présenter ce qu'ils sont en Jésus-Christ, en Dieu. Quelle est leur identité? Et rappelez-vous, il dit que vous avez été choisis, vous êtes élus de Dieu, élus selon la préscience de Dieu. C'est ce qu'il montre en premier lieu, élus par le Dieu trinitaire, verset 2. On avait considéré cela. Et puis ensuite, il loue Dieu, il attire leur attention sur le fait que Dieu les a régénérés, les a fait naître de nouveau pour leur offrir une espérance et un héritage qui est indestructible, qu'ils ne peuvent pas perdre, que l'héritage leur est gardé dans les cieux et qu'eux-mêmes ils sont gardés pour cet héritage. Et cet héritage, c'est le salut accompli en Jésus-Christ. Et la semaine dernière, le frère Marcel nous a conduit dans le fait que, Pierre montre que c'est là que réside leur joie, n'est-ce pas, dans le fait qu'ils ont cet héritage et qu'ils se réjouissent, même sans avoir vu Christ, et qu'ils se réjouissent encore, ils croient en lui, ils se réjouissent encore d'une joie, verset 8, qui est une joie merveilleuse et glorieuse, et qu'ils ont la certitude qu'ils vont obtenir le salut de leur âme pour prix de leur foi. Il dit, et donc même au sein des épreuves, nous avons entendu cela la semaine dernière, ils pouvaient avoir la joie, sachant que l'épreuve de la foi est nécessaire parce qu'elle sert à l'affermir et elle a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ va apparaître. Et puis, avant d'arriver à la première exhortation, verset 13, que l'on trouve dans ce livre, c'est là qu'on trouve le premier impératif. Hein. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Okay. Et cela, la prochaine fois, donc le frère Jean-Pierre va nous conduire là-dedans, mais avant de faire cela, il expose encore des choses concernant le salut, concernant ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Et il va leur montrer la valeur, la grande valeur du salut. La grande valeur du salut. Imaginez un instant que vous ayez à prouver à quelqu'un que le salut est une chose grande et merveilleuse. Comment vous vous y prendriez? Qu'est-ce que vous mettriez en évidence? Essayez de penser à cela. Qu'est-ce qu'on dirait? Peut-être que la première chose que l'on ferait, c'est qu'on regarderait d'abord à soi et on essaierait de partir de soi pour exprimer les choses. Voilà ce que l'Évangile a fait pour moi. Voilà comment j'étais. Et maintenant, voilà comment je suis. C'est appelé un témoignage. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais quelqu'un peut dire, voilà, j'étais alcoolique avant de connaître Christ et maintenant je ne suis plus du tout alcoolique. Mais il y a des gens qui étaient alcooliques avant, à un moment donné, et puis après ils l'ont sans avoir connu Christ. Ils sont passés par une cure de désintoxication à l'hôpital et ils sont devenus non-alcooliques. Et pourtant ils ne connaissent pas Christ. Et on pourrait trouver beaucoup d'exemples comme cela, vous voyez, et pour montrer la puissance et l'efficacité ou la valeur de l'Évangile. Et certes, pour nous, on sait que c'est, quand on donne ce témoignage, que c'est Christ qui l'a fait. Mais il y a des gens qui n'ont pas Christ et qui ont connu de tels changements dans leur vie. Et donc, ce que Pierre va faire, c'est qu'il va montrer la valeur du salut, mais d'un point de vue complètement différent. Pas en partant des chrétiens eux-mêmes, mais en partant de personnes très particulières. Il va parler des prophètes, il va parler des anges, il va parler du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il va montrer la valeur, la grandeur de l'Évangile. Et les versets 10 à 12 traitent de cela. Et il dit, je vais vous le lire, il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut. Alors, vous voyez, verset 9, il dit, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme, pour prix de votre foi. Et puis verset 10, il dit, ce salut-là, hein, ce salut, eh bien, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Voilà comment il met à leurs yeux la splendeur, on pourrait dire, de l'Évangile. Donc le titre du message ce matin, c'est vraiment la grande valeur du salut. La grande valeur du salut. Pierre va montrer à ses lecteurs et aussi à nous que le salut est une grande et merveilleuse chose. Mais il le montre, premièrement, en leur faisant voir que le salut par la grâce, parce que c'est ce dont il s'agit ici, hein, il parle de que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, hein, qui vous était réservée, il montre que le salut par la grâce est la substance de la prophétie de l'Ancien Testament. Le salut par la grâce, c'est la substance de la prophétie de l'Ancien Testament. Les prophètes, dit-il, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. D'accord ? Il dit que les prophètes ont prophétisé concernant ce salut. Donc ce salut se trouve dans la prophétie. Et la manière avec laquelle il dit les choses, c'est qu'il montre que le salut, même par la grâce, c'est la substance même de la prophétie. C'est-à-dire que si on veut savoir de quoi parle la prophétie de l'Ancien Testament en général, elle traite du salut en Jésus-Christ. Alors de manière pas forcément très évidente, mais c'est ce que l'on y trouve. Et Pierre est en train de leur dire, attention, le salut ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, qui est né à un moment donné de l'histoire, dans la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur les apôtres. Il dit non, pas du tout. Le salut a un ancrage beaucoup plus lointain que cela. Et même, c'est la substance, dit-il, de ce que l'on trouve dans les écrits prophétiques. Et donc, il va d'abord montrer ici que l'Esprit de Christ a inspiré les prophètes. Concernant le salut. L'Esprit de Christ a inspiré les prophètes. Il dit que les prophètes voulaient sonder l'époque, verset 11, et les circonstances marquées par quoi ici ? L'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ était dans les prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète ? Voilà une nouvelle question pour vous. Qu'est-ce qu'un prophète ? Peut-être que nous faisons une idée d'un personnage assez austère, peut-être un peu vieux, enfin, je renvoie les images que j'avais, moi en tout cas quand j'étais plus jeune, un peu vieux, avec peut-être une barbe, souvent, la mine sévère, et qui passait son temps à prédire, à dire des choses qui doivent arriver, l'avenir. Pour nous souvent, la prophétie, c'est quelque chose qui est annoncé, d'accord, qui n'est pas encore arrivé, donc le prophète c'est toujours celui qui dit ce qui n'est pas encore arrivé, qui prédit les choses ici. Et c'est vrai que dans la Bible, parfois, ils sont appelés des voyants. Les prophètes sont appelés des voyants. Ils voient un peu ce qui va se produire. Ils ont une révélation de ce qui va arriver. Mais en réalité, leur ministère principal était d'enseigner le peuple. Et il y avait certainement des prophètes qui n'ont jamais eu fait de prédiction. Chose dans le sens où quelque chose qui va se réaliser. Le prophète, c'est celui qui parle devant. D'accord ? Il prophétise, il parle, il est le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Il s'exprime souvent en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Donc c'est celui qui est dans lequel la parole de l'Éternel est dans sa bouche et il prononce cette parole de l'Éternel. Et il le fait en général pour enseigner et pour redresser le peuple. Donc, il y avait un ministère d'instruction, d'enseignement du peuple. Et pas simplement de dire des choses qui allaient se produire plus tard. Et il est donc celui dans la bouche duquel est la parole de Dieu. Et Pierre affirme donc que l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Parce qu'il n'y a pas de prophète sans l'Esprit de Dieu en eux. Ça n'existe pas. C'est dire que quelqu'un est prophète, c'est dire un vrai prophète, bien sûr. Dire que quelqu'un est prophète, c'est dire qu'il a l'esprit. À l'époque, c'est cela. Dire qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Sinon, il n'est pas prophète de Dieu. Il n'est pas le porte-parole de Dieu. Dans Osée chapitre 2, 9 et verset 7, on trouve ceci. Le prophète est appelé l'homme inspiré ou l'homme qui a l'esprit. Si vous lisez ça, vous allez voir ça. Donc, c'est comme ça qu'il définit le prophète ici. Je vous lis dans la version Semeur, il dit « Tu les supportas de nombreuses années » en parlant de Dieu « et tu leur donnas des » il parle donc ce que Dieu a fait au peuple « tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Okay. » Vous voyez donc ici, c'est par l'esprit et par les prophètes. Le prophète parle toujours par l'esprit de Dieu. Par l'Esprit de Christ aussi, nous dit ici l'apôtre Pierre. Le prophète ne dit pas ce qui vient de lui-même, il ne s'autoproclame pas prophète, mais il est saisi par l'Esprit, inspiré, et il parle de la part de Dieu. Rappelez-vous, c'est 70 en Nombre, chapitre 11 et au verset 25, lorsqu'il dit que l'Éternel descend dans la nuée, qu'il parle à Moïse et qu'il prit de l'esprit qui était sur Moïse et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Vous voyez ici, donc on voit le lien qu'il y a entre la prophétie et l'esprit. D'accord ? Et donc ce que Pierre dit à ses lecteurs, c'est que le salut et la substance de la prophétie de l'Ancien Testament, et d'ailleurs les prophètes qui ont prophétisé, ils ont tous fait par l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ même dont le salut parle, hein, qui était dans les prophètes. C'est l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes. Et on peut lire dans Néhémie chapitre 9, par exemple, hein, que c'est par son esprit que le Seigneur parle aux prophètes. On a lu ça tout à l'heure. Hein. Et donc, il n'y a pas de prophète sans l'esprit de Christ. Et c'est ce que Pierre souligne dans sa deuxième épître. Un peu plus tard, il écrit, et au chapitre, dans 2 Pierre chapitre 1 et au verset 20, donc vous tournez quelques pages, 2 Pierre 1, verset 20, il dit, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pourquoi est-ce que la prophétie ne peut pas être un objet d'interprétation particulière? Ça veut dire qu'elle a un sens et un sens. Et on ne peut pas dire ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non. Pourquoi? Parce que, dit-il, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la prophétie de l'Ancien Testament, ce sont les paroles de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de Christ. Donc, quand Pierre parle du salut, il dit le salut est une grande chose, parce que le salut, c'est la substance de la prophétie. Et la prophétie, il n'y en a aucune qui a été apportée en dehors de l'Esprit de Christ. C'est Christ lui-même, par son Esprit, qui insufflait dans les prophètes tout ce qu'il devait dire. Et ces choses concernent Christ lui-même. C'est ce que Jésus avait dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean. Il dit que l'Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais c'était déjà le ministère de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Ici. Donc l'Esprit de Christ a inspiré les prophètes. Mais aussi, hein, ce que Pierre montre, c'est que les prophéties pointent vers Jésus-Christ et vers son œuvre de rédemption. Alors, quand on lit les prophéties, on a l'impression que ça parle de quelque chose, ça parle d'autre chose. Alors, bien sûr, il y avait des choses qui concernaient le temps présent des personnes sur lesquelles le prophète exerçait son ministère, mais dans la pensée générale, quand on dézoome, comme on dit un petit peu, quand on prend du recul et qu'on le regarde, eh bien les prophéties pointent vers Jésus-Christ et vers l'œuvre de la rédemption. Le cœur de la prophétie concerne pas les événements climatiques, ça concerne pas la politique, l'économie, mais ça concerne Christ et son œuvre rédemptrice. Et c'est pour ça que Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder les temps et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait, qu'est-ce que l'Esprit de Christ attestait? Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il dit, voilà quel est le cœur de la prophétie, les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc Pierre veut réaffirmer auprès de ses lecteurs que le message du salut par la grâce qu'ils ont reçu, ce n'est pas une invention des apôtres, ce n'est pas une invention de l'Église primitive, mais c'est le thème central et principal de toute la prophétie de l'Ancien Testament. Et donc ce que les prophètes ont écrit sous la dictée du Saint-Esprit concerne les souffrances de Christ et les gloires dont elle serait suivie. Est-ce que l'on est capable de voir cela dans l'Ancien Testament? D'accord. Alors, il y a beaucoup de passage. Hein. Concernant les souffrances de Christ, je vous donne juste un ou deux à chaque fois, mais concernant les souffrances de Christ, eh bien, quand vous lisez Ésaïe, chapitre 53, d'accord, on voit comment les souffrances du Messie sont décrites dans Ésaïe. Hein. Ce sont nos douleurs hein, qu'il a portées. Hein. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé hein, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu et humilié, mais d'accord, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il y a toutes ces souffrances de Christ sont annoncées plus de 700 ans avant qu'elles n'arrivent par le prophète. Quand vous lisez Psaume 68, verset 18, il est fait référence à même à l'ascension de Christ. Alors quand on parle des souffrances, bien sûr, on ne parle pas simplement de la mort de Christ, mais de toute sa vie, depuis l'incarnation, qui était déjà l'abaissement même, jusqu'à la croix. On pourrait dire ici, depuis l'incarnation jusqu'à la croix. Et quand on parle de sa gloire, bien, on parle bien sûr de la résurrection, de son ascension, de son exaltation, et puis aussi de son prochain retour en gloire. Eh bien, Pierre dit que tout cela, c'est le thème principal de la parole prophétique. Donc l'ascension, psaume 68, verset 18. Et puis, la gloire, hein, d'accord, les paroles de gloire bien concernant Jésus-Christ, eh bien, on peut les trouver, par exemple, je prends juste, hein, dans le psaume 16, par exemple, l'apôtre Paul, quand il prêche, souvenez-vous, à la Pentecôte, il dit ceci. On va regarder ça dans Actes, plutôt. Mais dans Actes, on a une citation du psaume 16 concernant la résurrection de Christ. Hein. Donc, regardez dans Actes, chapitre 2. Et quand l'apôtre Pierre prêche à la Pentecôte, et à partir du verset 24, il dit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pourquoi il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle? Parce que l'Écriture l'avait déjà annoncé. Le prophète l'avait déjà dit. Alors, il dit, « Car David dit de lui, je voyais... » Et là, il cite le psaume 16, verset 8 à verset 11. Il dit, « Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne... soit point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue est dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas ton âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Et il dit, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il est Il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui. » Et puis, au verset 31, il dit, « C'est la résurrection de Christ que David a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. » Et il ajoute, j'ai sauté le verset 30, « Et comme il était, comment David était, comment il considère ici, prophète. » David était prophète. Pierre dit sous l'inspiration du Saint-Esprit que David était prophète, que David a annoncé en tant que prophète la résurrection de Christ, donc la gloire de Christ ici. Et on voit donc que tout ce qui concerne, alors on a pris juste quelques versets, mais il y en a beaucoup d'autres, dans l'Ancien Testament, que le thème de l'Ancien Testament, c'est vraiment le salut par la grâce en Jésus-Christ, et principalement annoncé sous la forme des souffrances de Christ et des gloires dont elles seraient suivies. Et le Seigneur Jésus lui-même, souvenez-vous, il a dit aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il dit, « Vous les sondez. » Il dit, « Mais l'Écriture rend témoignage de moi. » Et quelle Écriture les... À l'époque de Jésus, les pharisiens sondaient. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils sondaient l'Ancien Testament. Moïse, les psaumes et les prophètes. C'est ce qu'ils sondaient. On trouve ça donc dans Jean, chapitre 5, verset 39. Et dans Apocalypse, Dieu lui-même dit ceci. Il dit que le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Puis juste pour vous rappeler ce que Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils étaient en proie à la désolation et à la tristesse, et qu'il veut, il veut corriger leurs pensées, eh bien, en Luc 24, il leur dit, « Ô homme, vous êtes lent, vous êtes sans intelligence, et vous avez le cœur lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Il leur dit, « Mais vous n'avez pas écouté ce qu'ont dit les prophètes. » Ils sont là, ils sont tout déçus. Ils disent, « Voilà, on espérait que Jésus allait renverser, allait délivrer Israël, probablement renverser l'Empire romain, etc. Et bien voilà, maintenant, ça fait 3 jours qu'il est mort. Et bien voilà. Et puis, plus rien. » Et Jésus leur dit, « Mais vous n'avez pas écouté la prophétie. » Qu'est-ce qu'elle disait la prophétie? Jésus leur dit, voilà ce que disait la prophétie. Et Jésus résume lui-même les prophètes et Moïse. Et voilà, par ces paroles-là, écoutez ce qu'il dit. Luc chapitre 24, verset 25, il dit, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» C'est ça que Jésus dit, qui est le résumé de la parole prophétique. Et qu'est-ce que Pierre dit dans notre passage? Ô lecteurs, pour les encourager à voir la splendeur de l'Évangile, il dit qu'ils ont sondé les Écritures, ils ont voulu connaître les époques qui étaient marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et l'Esprit de Christ qui attestait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Exactement ce que Jésus a dit ici aux disciples d'Emmaüs. Donc, chers frères et sœurs, on peut dire que le salut par la grâce est vraiment la substance des prophéties de l'ancienne alliance. Mais deuxièmement, Pierre va montrer la grande valeur du salut en faisant voir que le salut par grâce est le sujet de la prédication de l'Évangile aussi. C'est le thème principal, la prédication de l'Évangile, verset 12. Il leur fut révélé, donc à ces prophètes, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Il dit en fait ici que ce que vous avez entendu comme message qui vous a été annoncé, qui vous est annoncé maintenant, c'est ce qu'il dit, ça n'est absolument rien d'autre que ce qui a été prédit par les prophètes. C'est ce qu'il dit, hein. Regardez bien, il dit... il fut révélé aux prophètes, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs, ceux qui vont donc donner, dispenser des choses, les dispensateurs de ces choses. Quelles choses? Bien, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ce qu'il vient d'expliquer juste auparavant. Qu'ils sont les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées, ce sont ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit qui était envoyé du ciel. Donc Pierre dit que ceux qui ont prêché l'Évangile n'ont pas annoncé autre chose que ce que l'Esprit avait déjà révélé aux prophètes. Le thème est le même. Il y a certainement des développements qui sont différents, parce qu'il y a des choses qui avaient été prédites et qui se sont réalisées, mais la substance de la chose est la même. Il ne s'agit en aucun cas de quelque chose de complètement nouveau ou d'une innovation quelconque. Quand Paul prêche l'Évangile, l'apôtre Paul, plus tard, il dit devant le roi Agrippa, il dit ceci, il dit, j'ai rendu témoignage devant les petits et les grands. Et auparavant, il dit à ceux de Damas d'abord, j'ai annoncé la repentance avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit cela. Puis après, il continue, il dit, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que Christ souffrirait et que ressuscité des morts, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Les souffrances de Christ et les gloires dont elles seraient suivies. Et Paul dit, j'ai prêché l'Évangile, voilà ce que j'ai fait. Et je ne me suis pas écarté, pas d'un iota, dit-il, de ce qui a été annoncé par les prophètes. Et Pierre dit, ce qui a été révélé aux prophètes, ces choses-là qu'ils ont dispensées pour vous, c'est exactement la même chose que les apôtres et que tous les prédicateurs que vous avez vous ont annoncé. C'est le même message. L'évangile, ce qui fait la grandeur de l'évangile, c'est pas quelque chose qui change tous les 34 matins. C'est un message qui est porté par l'Esprit de Christ et qui est invariable. Invariable, c'est le même qu'a prêché Isaïe, qu'a prêché Jérémie, qu'a prêché Osée, que vous prêchent aujourd'hui vos prédicateurs. D'accord ? C'est le même qu'on prêche aujourd'hui, le même qui a été prêché dimanche dernier, et le même qui sera prêché dimanche prochain. Parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Donc les prophètes étaient les dispensateurs des choses que les apôtres et d'autres prédicateurs ont prêchées aux lecteurs de Pierre. Et donc, le salut annoncé clairement par les apôtres est exactement le même qui a été inspiré dans l'Ancien Testament. Certes, l'annonce de l'évangile par les apôtres et les prédicateurs ont pu se faire de manière plus complète parce qu'il y avait plus de lumière. Mais c'est exactement le même évangile. Et lorsque Pierre prêche devant Corneille, vous vous rappelez, toute la maison de Corneille, et qu'il prêche l'évangile, il raconte ce qui est arrivé à Jésus-Christ, il énumère les faits, il raconte. Et puis à un moment, il arrive au acte 10, verset 43, il dit, tous les prophètes, rendent de lui, de Jésus-Christ, témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça, c'est le message le plus évangélique qui soit, non ? Le salut par la foi en Jésus-Christ. Et il dit, d'où est-ce qu'il tire ça ? Il dit, tous les prophètes le disent. Hein ? Il ne dit pas, c'est nous, depuis que Jésus-Christ est venu, on a compris, c'est ce qu'il faut dire. Non, il dit, tous les prophètes disent que celui qui croit en Jésus-Christ reçoit en son nom le pardon des péchés. Il a tiré ça de l'Ancien Testament. Donc Pierre dit, c'est le même message que vous prêche aujourd'hui ce qui vous annonce l'évangile. Et c'est aussi le même esprit, par le même esprit qu'il vous annonce. Vous remarquez ça dans le verset, il dit, il leur fut révélé, verset 12 encore, que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais pour vous, ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile, comment ils l'ont prêché ? Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même message, même esprit. L'esprit qui a inspiré, c'est l'esprit qui révèle dans la proclamation aussi de l'évangile. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça qui fait la grandeur de l'évangile. L'esprit de Christ dans les prophètes, inspirant les éléments du salut, agit aussi dans le prédicateur pour la proclamation de ce même salut. Je voudrais lire juste quelques versets de 1 Corinthiens. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit ici concernant vraiment le ministère de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire au verset 3. Il dit « Moi-même », 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3, il dit « Moi-même, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, mais comme il est écrit, Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées. Comment ? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données par sa grâce. Il montre ici vraiment qu'il n'y a pas de ministère d'évangélisation, de proclamation de l'Évangile, sans l'Esprit de Christ, sans l'Esprit de Dieu qui agit dans le prédicateur. Et il parle particulièrement des apôtres, quand il dit « Dieu nous les a révélés », il ne parle pas de nous, il parle des apôtres à qui Dieu a révélé des choses. Comme il a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament, il a aussi inspiré les apôtres. Il leur a révélé des choses pour qu'ils puissent nous le mettre par écrit. Mais je continue. Il dit, et nous en parlons, verset 12, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Non seulement c'est l'Esprit qui les guide, mais ils utilisent des méthodes et des moyens qui sont enseignés par l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et puis pour ceux qui écoutent, il dit ceci, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et il est en train de dire ici que ceux qui écoutent la parole de Dieu ont besoin de l'Esprit de Dieu agissant en eux afin qu'ils soient rendus capables d'écouter la parole de Dieu. C'est spirituellement seulement qu'on peut juger des choses de Dieu et les recevoir. Donc, Dieu révèle, on appelle ça l'esprit de révélation à ses apôtres et à ses prophètes, ce qu'il faut dire, mais Dieu illumine aussi nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce qui est dit par les prophètes et par les apôtres. Et nous avons besoin de cette œuvre d'illumination. C'est pour ça que lorsque nous approchons de la parole, nous prions, illumine nos cœurs afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Il est impossible de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu à moins d'avoir l'Esprit de Dieu au préalable qui œuvre en nous. Parce que c'est spirituellement, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut l'Esprit de Christ. Et donc Paul dit ici, l'Esprit de Christ est dans, Pierre Balandi, l'Esprit de Christ est dans les prophètes. Il agit et il leur insuffle des choses qu'ils puissent dire qui concernent Christ, qui concernent le salut. L'Esprit de Dieu est aussi dans les apôtres à qui il finit de révéler aussi des choses. Et l'Esprit de Dieu agit dans vos cœurs pour que vous puissiez recevoir pleinement sa parole avec efficacité. Et c'est pour ça que quand on écoute un prédicateur qui prêche vraiment la parole de Dieu et que l'on reçoit la parole avec joie, ce n'est pas parce que ça vient de nous-mêmes, parce que nous avons pu, avec notre intelligence, discerner qu'il y avait des choses vraies. C'est parce que l'Esprit de Dieu agit en nos cœurs pour nous convaincre et pour nous illuminer et pour nous aider à saisir les choses qui viennent de lui. Parce que c'est spirituellement seulement qu'on peut les faire. Les apôtres utilisent un langage spirituel pour des choses spirituelles sous l'action du Saint-Esprit. Et nous qui écoutons, nous la recevons aussi par la grâce de Dieu et le fait qu'il agisse en nous par son Esprit. La grandeur du salut est montrée par vraiment ce fait qu'il est le sujet de la prédication de l'Évangile, qui est le même message que celui des prophètes, et guidé par le même esprit que celui des prophètes. Mais troisièmement, l'apôtre Pierre montre aussi que le salut par la grâce est d'une grande valeur, parce qu'il est l'objet du plus profond intérêt des prophètes et des anges. Regardez ce qu'il dit. Il dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, verset 10, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc il y a eu une investigation prophétique extrêmement grande. Le sens ici, c'est qu'ils ont cherché soigneusement, méticuleusement à comprendre ce qu'ils avaient écrit. Imaginez, ils reçoivent de Dieu ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent écrire, et après ils reviennent à ce qu'ils ont écrit pour essayer de comprendre. Et ils cherchent. Ils comprennent qu'il y a des choses là qui sont dites, mais ils ne saisissent pas toute la portée. Il y avait des choses qui étaient dites pour des applications immédiates. Et même parfois dans des choses qui étaient dites pour des applications immédiates, il y avait une portée encore parfois plus lointaine, ça, qu'ils ne pouvaient pas voir. Mais la Bible dit ici qu'ils ne se sont pas contentés de dire la parole. Une fois qu'ils les ont dites, ils ont dit, ça contient des choses que je ne comprends pas. Il faut que je comprenne. Et ils ont cherché. Ils ont passé du temps. Donc, un autre ministère, si j'ose dire, des prophètes, c'était d'ausculter leurs propres écrits et ceux des prophètes qui les avaient précédés pour tenter de discerner de quoi ça parle. Et puis, quand c'est que ça va se produire et de qui est-ce qu'il est question? Et il dit, il voulait sonder l'époque et les circonstances. Certaines traductions disent, il voulait sonder l'époque et la personne. Parce que le mot qui est traduit par circonstance peut être aussi traduit par quoi ou par qui. Donc, on pourrait dire ici, qui est ce Messie et à quelle époque est-ce qu'il va apparaître? Et l'Esprit leur dit, ce n'est pas pour votre époque, c'est pour une époque beaucoup plus lointaine. Mais ils ont cherché. Dieu ne leur a pas révélé plus, mais Pierre nous montre que même sans avoir plus de révélé, ils ont, avec ce qu'ils avaient comme écrit, passé du temps pour creuser, pour chercher, pour comprendre et pour découvrir. C'était des étudiants de l'Écriture. Les prophètes étaient des étudiants de l'Écriture. Et Daniel, on a un exemple avec Daniel, hein, dans Daniel 12, verset 8, lorsqu'il lit dans le prophète Jérémie que les 70 ans vont arriver, il se met à prier, puis après, on arrive au chapitre 12, et il dit que la parole était encore, il n'avait pas terminé, qu'il y a un ange qui lui apparaît, etc. Et puis Dieu, il y a encore des révélations. Il arrive au verset 12, il dit, « J'entendis, mais je ne compris pas. » C'est Daniel qui dit ça, le prophète Daniel dit, j'entendis mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? C'est exactement cette attitude-là que Pierre décrit. Ils disent des choses, ils entendent des choses de la part de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Et ils veulent en savoir plus, parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de grand qui est annoncé dans ces paroles qui concernent le Messie, qui concernent le salut par la grâce. Et c'est exactement ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit, « Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Je vous le dis en vérité, dit-il. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ils ont cherché, ils ont demandé à savoir plus. Non, ils n'ont pas connu plus que ce qui leur a été révélé. Et vous êtes, il dit, et vous maintenant, vous le voyez de vos yeux, vous l'entendez, ils ont désiré avoir ça, ils ne l'ont pas eu. Qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous faites avec? C'est un peu la question que Jésus pose ici. Il voulait sonder, dit Pierre, l'époque et les circonstances. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Et Pierre montre ici que ces prophètes ont mis leur énergie à chercher. Et il dit, non seulement les prophètes ont fait cela, mais les anges, écoutez bien ce qu'il dit, les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile. Et l'idée, c'est se baisser pour voir. C'est un peu comme, c'est le même mot qu'il utilisait lorsque Pierre court au tombeau, vous vous rappelez, après la résurrection, et puis qu'il se baisse pour voir dans le tombeau s'il y a quelque chose. Et puis il dit, les anges, c'est pareil, ils se baissent pour chercher à comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ce salut? Les anges sont des êtres créés par Dieu avant la fondation du monde. Ils existent en très grand nombre, vous savez. Les anges sont des êtres spirituels, incorporels, immortels. Ils ont une connaissance bien supérieure à la nôtre, à celle des hommes, mais ils ne sont pas omniscients. Ils sont bien puissants que nous, mais ils ne sont pas non plus omnipotents. Les anges sont extrêmement actifs dans l'histoire du salut, hein, comme on peut le lire dans l'Écriture. Hein. Ils ont été les messagers de Dieu pour aider les hommes à connaître le Messie. Un ange a été envoyé auprès de Marie, rappelez-vous, auprès de Zacharie, auprès de Joseph, pour lui dire que de prendre, de ne pas avoir peur de prendre Marie comme femme. Les anges vont annoncer aux bergers la naissance du Messie. Il était impossible de reconnaître le Messie sans le ministère angélique. Hein. Dieu a utilisé des anges à chaque fois pour conduire vers Christ. Les anges étaient présents au tombeau pour affirmer la résurrection de Jésus-Christ. Ils étaient présents aussi à l'ascension pour dire qu'il va revenir de la même manière par laquelle il était parti. Les anges, nous dit la parole, se réjouissent dans le ciel chaque fois qu'il y a un seul pécheur qui se repent. Pensez à, si vous vous souvenez du jour où vous êtes tourné vers Christ, pensez-y. Eh bien, il y avait la fête auprès des anges. Des créatures célestes, celles qui sont saintes, qui n'ont jamais péché, se réjouissent devant Dieu quand il y a juste un seul pécheur qui se repent. C'est ce que Jésus dit. Ils sont émerveillés par la sagesse infiniment variée de Dieu, que Dieu montre par l'Église. Éphésiens 3.10 dit, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils découvrent combien Dieu est sage, combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux en regardant l'Église, l'œuvre de que Dieu accomplit, en sauvant des êtres humains et en les incorporant dans son corps qu'il appelle l'Église. Et les anges sont émerveillés par cela. Ils connaissent par ce moyen-là ceci. Ils ne prêchent pas le salut, mais ils guident les hommes vers qui peut leur prêcher le salut. Rappelez-vous, Dieu envoie un ange à Corneille, mais l'ange ne dit pas « Corneille, il faut que tu te tournes vers Christ ». Non, l'ange vient juste dire à Corneille « Va faire chercher Pierre et il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé ». Parce que Dieu veut que ce soit des hommes qui prêchent à des hommes, ceux qui ont fait l'expérience du salut, qui prêchent à ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut, afin qu'ils se tournent vers Christ. Alors pourquoi les anges sont si intéressés par le salut des hommes? Il y a une chose que je n'ai pas dite concernant les anges, c'est que les anges ne feront jamais l'expérience du salut. Jamais. Les anges qui sont saints n'ont jamais péché. Ils n'ont pas besoin de salut. Et ceux qui ont péché, ils sont à jamais perdus. Il n'y a pas de salut pour les anges. Chers frères et sœurs, le salut est quelque chose que Dieu a fait pour les humains uniquement. Et les anges, ils regardent ça et disent, non, pas possible. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils veulent savoir plus de ce salut. Ils plongent leur regard dans ce salut que Dieu a fait uniquement pour les hommes. Juste un passage pour vous montrer qu'il n'y a pas de salut pour les anges, on en trouve d'autres, mais Jésus dit, la Bible dit que Jésus dira au dernier moment à ceux qui ne l'auront pas, se seront pas tournés vers lui pendant leur vie sur la terre, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer est préparé pour le diable et pour ses anges. Et dans 2 Pierre, il est dit que les anges déchus sont réservés pour le jugement. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Mais que Dieu a mis la grâce. Donc les anges ne connaîtront que la justice de Dieu, ce jugement. Mais les hommes pécheurs qui se tournent vers Christ expérimentent la grâce de Dieu. Et même s'ils ne sont pas concernés par ce salut-là directement, les anges, ils veulent en savoir là-dessus. Ils trouvent cela magnifique parce que ça leur permet de glorifier Dieu et de le glorifier encore davantage. Regardez Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7 et au verset 8. Apocalypse chapitre... Oui, c'est ça, peut-être. Oui, c'est ça. Chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, verset 9. Il dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule de personnes qu'on ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Il se tenait devant l'agneau, devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte et disaient « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Pendant que les hommes chantent le salut, parce qu'ils en font l'expérience, les anges ne peuvent pas chanter « Nous sommes des rachetés », mais ils peuvent s'associer à la chorale pour rendre gloire à Dieu par rapport à son œuvre extraordinaire qu'il a accomplie. L'œuvre du salut par la grâce, c'est l'œuvre par excellence que Dieu accomplit. Et c'est le thème central de l'Écriture. Et c'est le thème, regardez ici, de la louange aussi dans le ciel. Le salut, nous dit ce passage. Et le salut pour qui ? Pour les hommes. Et qui c'est qui chante avec les hommes ? Les anges qui ne sont pas concernés, qui ne font pas l'expérience. Je veux dire, ils sont concernés dans un certain sens, mais ils ne font pas l'expérience parce qu'ils n'ont pas péché. Mais ils glorifient Dieu néanmoins. Ils glorifient Dieu néanmoins. Et ce que Pierre dit ici en substance, il dit, si les anges désirent plonger leur regard dans ce qui n'a pas été fait pour eux-mêmes, combien plus devez-vous apprécier la grandeur du salut, vous qui êtes des hommes, et qui êtes les bénéficiaires de tout ce qu'ont annoncé les prophètes depuis les temps anciens, qui vous est prêché encore maintenant. Vous êtes les bénéficiaires de tout cela. Et je termine avec quatrième aspect de la grandeur du salut. Donc la grandeur du salut, dans ce qu'il nous est montré par le fait que le salut par la grâce, c'est la substance même de la prophétie. Le salut par la grâce, c'est le sujet de la prédication évangélique. Le salut par la grâce est l'objet de la recherche des anges et des prophètes. Et puis, le salut par la grâce est offert à tous. Le salut par la grâce est offert à tous. Sa grandeur est montrée par le fait qu'il est offert à tous. Et c'est ce que Pierre souligne ici, on peut tirer cela de ce qu'il dit, regardez, il dit ici au verset, donc on est dans 1 Pierre chapitre 1 et au verset 10 à 12, on pourrait se poser la question, quelle est la cible de Pierre dans ce qu'il est en train de dire ? À qui est-ce qu'il s'adresse ? Qui c'est qu'il vise vraiment dans ce qu'il est en train de dire ? Et il dit ceci, il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, donc il parle à vous, il leur fut révélé, verset 12, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs des choses, que vous ont annoncé maintenant ce qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Vous. Il dit, c'est vous qui êtes adressé par cette parole. Il dit, ce salut par grâce, il est pour vous qu'il entendait aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé depuis les temps anciens et que l'Esprit de Dieu a annoncé aux prophètes, c'est pour vous qu'il l'a fait. C'est pour vous qu'il l'a fait. Et donc, lorsque vous écoutez la prédication de la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu qui vous est adressée par le Saint-Esprit et qui vous appelle à croire en lui, à placer votre confiance en lui, dans ce salut qui a une immense valeur. Dans ce salut qui a une immense valeur. C'est le seul qui peut vous sauver. C'est celui qui vient de Dieu, dont Dieu est à l'origine, dont Dieu est l'auteur, qui agit en vous par le Saint-Esprit. Le message vous est présenté avec la puissance du Saint-Esprit. Et le message de l'Évangile est pour vous, dit l'apôtre Pierre ici. Il fait remarquer aux chrétiens qui sont en proie à la difficulté, à la souffrance, qu'ils sont les bénéficiaires des prophéties qui ont été inspirées par Christ et qui leur est prêchée aujourd'hui. Donc la grandeur du salut est montrée par le fait qu'il ne s'adresse pas à une catégorie de personnes, hein, Ce n'était pas pour les gens de l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour les gens à l'époque du Nouveau Testament, au premier siècle. Mais c'est pour vous maintenant et aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'Écriture dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui. Alors si vous connaissez Christ, eh bien, priez qu'il vous aide à apprécier l'infinie grandeur du salut opéré par Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fait jamais de petites œuvres. Tout ce qu'il fait est à la dimension de son être, est grand. Et le salut est une œuvre grande et merveilleuse. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas d'autre œuvre qui pourrait vous sauver de la colère de Dieu. Et ce que vous entendez aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour vous. Ce qui a été écrit d'avance par les prophètes, qui ont cherché à savoir, à comprendre, et ils n'ont pas compris, eh bien, c'est pour vous que cela est destiné. Pour vous qui pouvez l'entendre aujourd'hui, et vous avez toute la révélation pour pouvoir saisir plus que ces prophètes ont pu saisir. Je termine avec juste quelques petits points d'application. Nous devons apprendre, chers frères et sœurs, à étudier l'Écriture entièrement. Étudier l'Écriture entièrement. Pierre, en magnifiant le salut aux yeux de ses lecteurs et à nos yeux, il fait prendre conscience que le salut est enraciné dans l'Ancien Testament. Il ne suffit pas de lire le Nouveau Testament. Il y a des gens qui disent ça. Moi, le Nouveau Testament, ça va. L'Ancien Testament, oh, c'est compliqué, des généalogies, des ceci, des cela, des prophéties. Je n'y comprends rien. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, et pour instruire dans la justice. Donc prenons l'habitude de lire systématiquement toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. Même si je prends un an, une année et demie pour le faire, mais faisons-le régulièrement et lisons chapitre par chapitre, verset par verset. Et prions que Dieu nous aide dans cette lecture. Il ne faut pas dissocier l'évangile de la prophétie. On voit, hein? Ah, moi, ça c'est la prophétie, c'était pour les anciens. Là, c'est le nouveau. Moi, je suis, c'est l'évangile. Non, c'est une unité. L'Écriture est une unité. D'accord? On voit que c'est le même message, c'est le même esprit qui guide à la fois la prophétie et l'évangile. Deuxième application, la méditation et l'étude de l'œuvre du salut sont aptes à nous apporter les plus grandes et les plus profondes consolations. Lorsque vous êtes dans la détresse, comme étaient ces gens à qui l'apôtre Pierre écrit, dans la fournaise, dit-il, de l'épreuve, qu'est-ce qu'il leur dit? Il ne dit pas « faites ceci, faites cela ». Il leur expose la beauté du salut en Jésus-Christ, leur identité en Christ, ce que Christ a fait, leur régénération, comment Dieu a opéré leur nouvelle naissance et quelle est la valeur du salut dans lequel ils ont cru. C'est ça qui nous console. L'Évangile, en méditant sur Christ et sur ses souffrances et sur les gloires, la gloire dont elle sera suivie, eh bien cela est propre à nous apporter la consolation dans tous nos moments de difficulté. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec les disciples d'Emmaüs, rappelez-vous, quand ils étaient dans le désespoir. Il ne dit pas, écoutez, relevez-vous, ressaisissez-vous quand même. Non, il dit, vous êtes là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Souffrance et gloire de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, voilà. Et la Bible dit, et en commençant par Moïse et les prophètes, il leur explique tout ce qui le concerne dans les Écritures. D'accord ? Jésus fait une revue de tout ce qu'il y a dans les Écritures le concernant pour consoler deux hommes. Et vous savez à quelle vitesse ils retournent à Jérusalem ? Ils étaient plus que consolés. Troisième chose, eh bien, nous devons aussi, chers frères et sœurs, mesurer la grâce et la responsabilité que nous avons de vivre sous la pleine lumière de l'Évangile. Nos yeux peuvent voir ce que les prophètes n'ont pas vu, entendre ce qu'ils n'ont pas entendu. Combien donc est grande la lumière que nous avons, mais combien est grande aussi la responsabilité que nous avons. D'accord ? Puisqu'on a eu beaucoup, il sera demandé beaucoup. Et il ne faut pas qu'on oublie cela. Donc nous ne devons pas négliger ce que nous avons de révélation dans la parole de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir plus de révélations. Il y a encore des choses que nous ne comprendrons pas. Il y a encore des choses qui sont à venir. Christ n'est pas encore revenu. Il y a des choses qui vont encore se manifester plus tard. Peut-être c'est flou. Quand, à quel moment, il y en a qui passent du temps. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la révélation que l'on a déjà? Alors, c'est bien de chercher à en savoir plus. Mais c'est de méditer et de nous réjouir de ce que Dieu nous donne déjà, comme l'ont fait les prophètes et les anges. Et puis, dernièrement, je voudrais dire que nous devons aussi apprendre à chercher Christ dans la méditation de toutes les Écritures. Quand on lit, on peut avoir la tendance à penser pour nous, tout de suite, dans un certain sens, c'est-à-dire à dire, voilà, si je suis comme Joseph et que j'accepte la souffrance, eh bien, à un moment donné, Dieu va m'élever. C'est vrai qu'il y a ça dans le... pour Joseph, mais ce n'est pas ça que l'Écriture enseigne. D'accord ? Il y a plus que cela. N'oublions jamais que ce qui est enseigné dans l'Écriture, c'est Jésus-Christ. Et donc, nous devons aller le plus loin possible jusqu'à ce qu'on découvre ce que cela nous dit de Christ. Et quand on lit l'histoire de Joseph, on voit combien Dieu prend soin de la semence et de la promesse qu'il a faite en Genèse chapitre 3, verset 15, quand il a dit... la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, même si le talon de la postérité de la femme sera blessé. Et on voit toute l'œuvre du diable pour essayer de détruire. Et comment Dieu préserve? Et Joseph le dit, hein, Dieu m'a envoyé ici pour vous préserver la vie et vous faire grâce. Il s'agit de la grâce de Dieu, là, ici. Il ne s'agit pas de dire, je veux ressembler à Joseph, peut-être si j'accepte la difficulté, je mourrai de la difficulté. Hein. La Bible ne promet pas que si j'ai de la difficulté, je vais en sortir. Non, non, non. Bien sûr, on peut avoir des exemples. Ce n'est pas dit qu'il ne faut pas prendre des exemples. Mais ce que je veux souligner ici, c'est qu'il nous faut apprendre à lire, à demander à Dieu la grâce de comprendre ce qu'il a dans sa parole. Parce que c'est en découvrant Christ dans l'Écriture que je peux avoir le plus grand bienfait, la plus grande consolation. Que le Seigneur nous aide à saisir ces choses et à les mettre en pratique dans notre vie. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que le message de l'Évangile n'est pas quelque chose qui est sorti de la pensée de l'homme. Ça n'est pas une philosophie. Ça n'est pas quelque chose qui est conçu par un organisme, une association, mais c'est ton œuvre que tu as mis au point dès les temps éternels, comme ta parole nous le dit. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous voyons combien tu es un Dieu grand qui fait des choses merveilleuses. Nous te remercions pour ce salut si précieux. Et nous te prions que tu nous aides à regarder à toi, à regarder à ta parole, dans l'Écriture, à te chercher à travers la parole afin d'être profondément nourri et encouragé de notre marche avec toi. Et je te prie pour les personnes ici qui ne te connaissent pas, afin que tu agisses dans leur cœur par ton esprit. Oui, Seigneur, que tu les touches spirituellement, afin qu'ils soient rendus capables de recevoir ta parole. Que tu les attires à toi, que tu les sauves, Seigneur. Que tu puisses faire d'eux un peuple de sacrificateurs qui te louent et qui t'exaltent dans leur cœur. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.